De la cruauté. Chapitre 11. Il me semble que la vertu est chose autre et plus noble que les inclinations à la bonté qui naissent en nous. Les âmes réglées d'elles-mêmes et bien nées, elles suivent même train et représentent en leurs actions même visage que les vertueuses. Mais la vertu sonne je ne sais quoi de plus grand et de plus actif que de se laisser, par une heureuse complexion, doucement et paisiblement conduire à la suite de la raison. Celui qui, d'une douceur et facilité naturelle, mépriserait les offenses reçues, ferait chose très belle et digne de louange. Mais celui qui, piqué et outré jusqu'au vif d'une offense, s'armerait des armes de la raison contre ce furieux appétit de vengeance, et après un grand conflit, s'en rendrait enfin maître, ferait sans doute beaucoup plus. Celui-là ferait bien, et se tuit si vertueusement, l'une action se pourrait dire bonté, l'autre vertu. Car il semble que le nom de la vertu présuppose de la difficulté et du contraste, et qu'elle ne peut s'exercer sans adversaire. C'est à l'aventure pourquoi nous nommons Dieu bon, fort et libéral, et juste, mais nous ne le nommons pas vertueux. Ces opérations sont toutes naïves et sans effort. Des philosophes, non seulement stoïciens, mais encore épicuriens. Et cette enchère, je l'emprunte de l'opinion commune, qui est fausse, quoique dise ce subtil bon mot d'Arcésilas à celui qui lui reprochait que beaucoup de gens passaient de son école en épicurienne et jamais au rebours. Je crois bien, des coqs il se fait des chapons assez, mais des chapons, il ne s'en fait jamais des coqs. Car à la vérité, en fermeté et rigueur d'opinion et de précepte, la secte épicurienne ne cède aucunement à la stoïque. Et un stoïcien, reconnaissant meilleure foi que ses disputateurs qui, pour combattre Épicure et se donner beau jeu, lui font dire ce à quoi il ne pensa jamais, contournant ses paroles à gauche, argumentant par la loi grammairienne autre sens de sa façon de parler et autre croyance que celle qu'ils savent qu'il avait en l'âme et en ses mœurs, dit qu'il a laissé d'être épicurien pour cette considération, entre autres, qu'il trouve leur route trop hautaine et inaccessible. Et ceux que l'on nomme philédonoï, amoureux de la volupté, ils sont philokaloï et philodikaioï, amoureux du beau et du juste, et ils révèrent et pratiquent toutes les vertus. Des philosophes stoïciens et épicuriens, dis-je, il y en a plusieurs qui ont jugé que ce n'était pas assez d'avoir l'âme en bonne assiette, bien réglée et bien disposée à la vertu. Ce n'était pas assez d'avoir nos résolutions et nos discours au-dessus de tous les efforts de fortune, mais qu'il fallait encore rechercher les occasions d'en venir à la preuve. Ils veulent quêter de la douleur, de la nécessité et du mépris, pour les combattre et pour tenir leur âme en haleine. La vertu ajoute beaucoup à sa valeur quand elle subit des assauts. C'est l'une des raisons pourquoi Épaminondas, qui était encore d'une tierce secte, refuse des richesses que la fortune lui met en main par une voie très légitime pour avoir, dit-il, à s'escrimer contre la pauvreté en laquelle extrême il se maintint toujours. Socrate s'essayait, ce me semble, encore plus rudement, conservant pour son exercice la malignité de sa femme, qui est un essai à faire émoulu. Métellus, ayant seul de tous les sénateurs romains entrepris par l'effort de sa vertu de soutenir la violence de Saturninus, tribun du peuple à Rome, qui voulait à toute force faire passer une loi injuste en faveur de la commune, et ayant encouru par là les peines capitales que Saturninus avait établies contre les refusants, entretenait ce qui, en cette extrémité, le conduisait en la place de tels propos, que c'était chose trop facile et trop lâche que de mal faire et que de faire bien, ou qu'il n'y eût point de danger, c'était chose vulgaire. Mais de faire bien où il y eût danger, c'était le propre office d'un homme de vertu. Ces paroles de Métellus nous représentent bien clairement ce que je voulais vérifier, que la vertu refuse la facilité pour compagne et que cette aisée, douce et penchante voie, par où se conduisent les pas réglés d'une bonne inclination de nature, n'est pas celle de la vraie vertu. Elle demande un chemin âpre et épineux. Elle veut avoir ou des difficultés étrangères à lutter, comme celle de Métellus, par le moyen desquelles fortune se plaît à lui rompre la raideur de sa course, ou des difficultés internes que lui apportent les appétits désordonnés et imperfections de notre condition. Je suis venu jusqu'ici bien à mon aise, mais au bout de ce discours, il me tombe en fantaisie que l'âme de Socrate, qui est la plus parfaite qui soit venue à ma connaissance, serait à mon compte une âme de peu de recommandations, car je ne puis concevoir en ce personnage aucun effort de vicieuse concupiscence. Au train de sa vertu, je n'y puis imaginer aucune difficulté ni aucune contrainte. Je connais sa raison si puissante et si maîtresse chez lui qu'elle n'eût jamais donné moyen à un appétit vicieux seulement de naître. À une vertu si élevée que la sienne, je ne puis rien mettre en tête. Il me semble l'avoir marché d'un victorieux pas et triomphant, en pompe et à son aise, sans empêchement ni trouble. Si la vertu ne peut luire que par le combat des appétits contraires, dirons-nous donc qu'elle ne se puisse passer de l'assistance du vice et qu'elle lui doive cela d'en être mise en crédit et en honneur? Que deviendrait aussi cette brave et généreuse volupté épicurienne qui fait état de nourrir mollement en son giron et y faire folâtrer la vertu, lui donnant pour ses jouets la honte, les fièvres, la pauvreté, la mort et les géhennes? Si je présuppose que la vertu parfaite se connaît à combattre et porter patiemment la douleur, à soutenir les efforts de la goutte sans s'ébranler de son assiette, si je lui donne pour son objet nécessaire l'âpreté et la difficulté, que deviendra la vertu qui sera montée à tel point que, de non seulement mépriser la douleur, mais de s'en éjouir et de se faire chatouiller aux pointes d'une forte colique, comme est celle que les épicuriens ont établie, et de laquelle plusieurs d'entre eux nous ont laissé, par leurs actions, des preuves très certaines? Comme ont bien d'autres, que je trouve avoir surpassé par effet les règles mêmes de leur discipline, témoin le jeune Caton, quand je le vois mourir et se déchirer les entrailles, je ne me puis contenter de croire simplement qu'il eut lors son âme exempte totalement de trouble et d'effroi. Je ne puis croire qu'il se maintint seulement en cette démarche que les règles de la secte stoïque lui ordonnaient, rassise, sans émotion et impassible. Il y avait, ce me semble, en la vertu de cet homme, trop de gaillardise et de verdeur pour s'en arrêter là. Je crois sans doute qu'il sentit du plaisir et de la volupté en une si noble action et qu'il s'y agréa plus qu'en autre de celle de sa vie. Il sortit de la vie dans une telle disposition qu'il se réjouit d'avoir trouvé une cause de mourir. Je le crois si avant que j'entre en doute s'il eût voulu que l'occasion d'un si bel exploit lui fût ôtée. Et si la bonté qui lui faisait embrasser les commodités publiques, plus que les siennes ne me tenaient en bride, je tomberais aisément en cette opinion qu'il savait bon gré à la fortune d'avoir mis sa vertu à une si belle épreuve et d'avoir favorisé ce brigand à fouler aux pieds l'ancienne liberté de sa patrie. Il me semble lire en cette action je ne sais quelle éjouissance de son âme et une émotion de plaisir extraordinaire et d'une volupté virile lorsqu'elle considérait la noblesse et hauteur de son entreprise. Rendu plus acharné parce que sa mort était délibérée. Non pas aiguisé par quelque espérance de gloire, comme les jugements populaires et efféminés de quelques hommes ont jugé, car cette considération est trop basse pour toucher un cœur si généreux, si hautain et si raide, mais pour la beauté de la chose même en soi, laquelle il voyait bien plus clair, et en sa perfection, lui qui en maniait les ressorts, que nous ne pouvons faire. La philosophie m'a fait plaisir de juger qu'une si belle action eût été indécemment logé en toute autre vie qu'en celle de Caton, et qu'à la sienne seule, il appartenait de finir ainsi. Aussi ordonna-t-il, selon raison, et à son fils et au sénateur qui l'accompagnait, de pourvoir autrement à leur fait. Pour Caton, parce que la nature lui avait donné une incroyable force d'âme, et qu'il l'avait lui-même raffermie avec une constance jamais relâchée, il fallait mourir plutôt que de devoir regarder le visage d'un tyran. Toute mort doit être de même que sa vie. Nous ne devenons pas autres pour mourir. J'interprète toujours la mort par la vie. Et si on m'en récite quelqu'une forte par apparence, attachée à une vie faible, je tiens qu'elle est produite de causes faibles et sortables à sa vie. L'aisance donc de cette mort, et cette facilité qu'il avait acquise par la force de son âme, dirons-nous qu'elles doivent rabattre quelque chose du lustre de sa vertu? Et qui, de ceux qui ont la cervelle tant soit peu teinte de la vraie philosophie, peut se contenter d'imaginer Socrate, seulement franc de crainte et de passion, en l'accident de sa prison, de ses fers et de sa condamnation? Et qui ne reconnaît en lui, non seulement de la fermeté et de la constance, c'était son assiette ordinaire que celle-là, mais encore je ne sais quel contentement nouveau et une allégresse enjouée en ses propos et façons dernières. À se tressaillir du plaisir qu'il sent à gratter sa jambe, après que les fers en furent hors, accuse-t-il pas une pareille douceur et joie en son âme pour être désenforgé des incommodités passées et à même d'entrer en connaissance des choses à venir? Caton me pardonnera, s'il lui plaît. Sa mort est plus tragique et plus tendue. Mais celle-ci est encore, je ne sais comment, plus belle. Aristippe, à ceux qui la plaignaient, « Que les dieux m'en envoient une telle, » fit-il. On voit aux âmes de ces deux personnages et de leurs imitateurs, car de semblables je fais grand doute qu'il y en ait eu, une si parfaite habitude à la vertu qu'elle aurait passée en complexion. Ce n'est plus vertu pénible, ni des ordonnances de la raison pour lesquelles maintenir il faille que leur âme se raidisse, c'est l'essence même de leur âme, c'est son train naturel et ordinaire. Ils l'ont rendu tel par un long exercice des préceptes de la philosophie, ayant rencontré une belle et riche nature. Les passions vicieuses qui naissent en nous ne trouvent plus par où faire entrer en eux. La force et raideur de leur âme étouffent et éteignent les concupiscences aussitôt qu'elles commencent à s'ébranler. Or qu'il ne soit plus beau, par une haute et divine résolution, d'empêcher la naissance des tentations, et de s'être formé à la vertu de manière que les semences mêmes des vices en soient déracinées, que d'empêcher à vive force leur progrès, et s'étant laissé surprendre aux émotions premières des passions, s'armer et se bander pour arrêter leur course et les vaincre, et que ce second effet ne soit encore plus beau que d'être simplement garni d'une nature facile et débonnaire, et dégoûté par soi-même de la débauche et du vice, je ne pense point qu'il y ait doute. Car cette tierce et dernière façon, il semble bien qu'elle rende un homme innocent, mais non pas vertueux, exempt de mal faire, mais non assez apte à bien faire. Joint que cette condition est si voisine à l'imperfection et à la faiblesse que je ne sais pas bien comment en démêler les confins et les distinguer. Les noms même de bonté et d'innocence sont à cette cause quelque peu noms de mépris. Je vois que plusieurs vertus comme la chasteté, sobriété et tempérance peuvent arriver à nous par défaillance corporelle. La fermeté au danger, si fermeté il la faut appeler, le mépris de la mort, la patience aux infortunes, peuvent venir et se trouvent souvent aux hommes par faute de bien juger de tels accidents et ne les concevoir tels qu'ils sont. La faute d'appréhension et la bêtise contrefont ainsi parfois les effets vertueux. Comme j'ai vu souvent advenir qu'on a loué des hommes de ceux de quoi ils méritaient du blâme. Un seigneur italien tenait une fois ce propos en ma présence, au désavantage de sa nation, que la subtilité des Italiens et la vivacité de leur conception étaient si grandes qu'ils prévoyaient les dangers et accidents qui leur pouvaient advenir de si loin qu'il ne fallait pas trouver étrange si on les voyait souvent à la guerre pour voir à leur sûreté, voire avant que d'avoir reconnu le péril, que nous et les Espagnols, qui n'étions pas si fins, allions plus outre et qu'il nous fallait faire voir à l'œil et toucher à la main le danger avant que de nous en effrayer, et que l'or, aussi nous n'avions plus de tenue, mais que les Allemands et les Suisses, plus grossiers et plus lourds, n'avaient le sens de se raviser à peine lors même qu'ils étaient accablés sous les coups. Ce n'était à l'aventure que pour rire. C'est pourquoi il est bien vrai qu'au métier de la guerre, les apprentis se jettent bien souvent au hasard d'autres inconsciences qu'ils ne font après y avoir été échaudés. Sans ignorer combien peuvent, dans un premier combat, la nouveauté de la gloire des armes et la séduction de l'honneur. Voilà pourquoi quand on juge d'une action particulière, il faut considérer plusieurs circonstances et l'homme tout entier qui l'a produite avant la baptiser. Pour dire un mot de moi-même, j'ai vu quelquefois mes amis appeler prudence en moi ce qui était fortune, et estimé avantage de courage et de patience, ce qui était avantage de jugement et opinion, et m'attribuer un titre pour autre, tantôt à mon gain, tantôt à ma perte. Au demeurant, il s'en faut tant que je sois arrivé à ce premier et plus parfait degré d'excellence ou de la vertu, il se fait une habitude, que du second même, je n'en ai fait guère de preuve. Je ne me suis mis en grand effort pour brider les désirs de quoi je me suis trouvé pressé. Ma vertu, c'est une vertu, ou innocence, pour mieux dire, accidentale et fortuite. Si je fusse né d'une complexion plus déréglée, je crains qu'il fût allé piteusement de mon fait, car je n'ai essayé guère de fermeté en mon âme pour soutenir des passions, si elles eussent été tant soit peu véhémentes. Je ne sais point nourrir des querelles et du débat chez moi. Ainsi, je ne me puis dire nul grand merci de quoi je me trouve exempt de plusieurs vices. Si ma nature, par ailleurs droite, est entachée de défauts modérés et peu nombreux, comme on pourrait reprocher à un beau corps quelques verrues dispersées, je le dois plus à ma fortune qu'à ma raison. Elle m'a fait naître d'une race fameuse en prud'homie, et d'un très bon père, je ne sais s'il a écoulé en moi partie de ses humeurs, ou bien si les exemples domestiques et la bonne institution de mon enfance y ont insensiblement aidé, ou si je suis autrement ainsi né. Soit que je sois né sous le regard de la balance ou du redoutable scorpion, dominant à l'heure de ma naissance, ou du capricorne, tirant des ondes d'Hespérie. Mais tant il y a que la plupart des vices, je les ai de moi-même en horreur. La réponse d'Antisthène à celui qui lui demandait le meilleur apprentissage, désapprendre le mal, semble s'arrêter à cette image. Je les ai, dis-je, en horreur, d'une opinion si naturelle et si mienne que ce même instinct et impression que j'en ai apporté de la nourrice, je l'ai conservé sans qu'aucune occasion me les sût faire altérer. Voir non pas mes discours propres, qui pour s'être débandés en quelque chose de la route commune, me donneraient licence aisément à des actions que cette naturelle inclination me fait haïr. Je dirais une chose monstrueuse, mais je la dirais pourtant. Je trouve par là en plusieurs choses plus d'arrêts et de règles en mes mœurs qu'en mon opinion, et ma concupiscence moins débauchée que ma raison. Aristippe établit des opinions si hardies en faveur de la volupté et des richesses qu'il mit en rumeur toute la philosophie à l'encontre de lui. Mais quant à ses mœurs, Denis le tyran lui ayant présenté trois belles filles afin qu'il en fît le choix, il répondit qu'il les choisissait toutes trois et qu'il avait mal pris à Paris d'en préférer une à ses compagnes. Mais les ayant conduites à son logis, il les renvoya sans en tâter. Son valet, se trouvant surchargé en chemin de l'argent qu'il portait après lui, Aristippe lui ordonna qu'il en versât et jeta là ce qui lui fâchait. Et Épicure, duquel les dogmes sont irréligieux et délicats, se porta en sa vie très dévotieusement et laborieusement. Il écrit à un sien ami qui ne vit que de pain bis et d'eau le prix de lui envoyer un peu de fromage pour quand il voudra faire quelque somptueux repas. Serait-il vrai que pour être bon tout à fait, il nous le faille être par occulte, naturelle et universelle propriété, sans loi, sans raison, sans exemple? Les débordements auxquels je me suis trouvé engagé ne sont pas, Dieu merci, des pires. Je les ai bien condamnés chez moi, selon qu'ils le valent, car mon jugement ne s'est pas trouvé infecté par eux. Au rebours, je les accuse plus rigoureusement en moi qu'en un autre. Mais c'est tout, car au demeurant j'y apporte trop peu de résistance et me laisse trop aisément pencher à l'autre part de la balance, sauf pour les régler et empêcher du mélange d'autres vices, lesquels s'entretiennent et s'entrenchaînent pour la plupart les uns aux autres, qui ne s'en prend garde. Les miens, je les ai retranchés et contraints les plus seuls et les plus simples que j'ai pu. Ma complaisance pour le vice ne va pas au-delà. Car quant à l'opinion des stoïciens, qui disent le sage œuvrer quand il œuvre par toutes les vertus ensemble, quoiqu'il y en ait une plus apparente selon la nature de l'action, et à cela leur pourrait servir quelque peu la similitude du corps humain, car l'action de la colère ne se peut exercer que toutes les humeurs ne nous y aident, quoique la colère prédomine. Si de là ils veulent tirer pareille conséquence que quand le fauteur faute, Il faut par tous les vices ensemble. Je ne les en crois pas ainsi simplement, ou je ne les entends pas, car je sens par effet le contraire. Ce sont subtilités aiguës, insubstantielles, auxquelles la philosophie s'arrête parfois. Je suis quelques vices, mais j'en fuis d'autres, autant que saurait faire un saint. Aussi désavouent les péripatéticiens cette connexité et couture indissoluble, et tient Aristote qu'un homme prudent et juste peut être et intempérant et incontinent. Socrate avouait à ceux qui reconnaissaient en sa physionomie quelque inclination au vice que c'était à la vérité sa propension naturelle, mais qu'il l'avait corrigée par discipline. Et les familiers du philosophe Stilpon disaient qu'étant né sujet au vin et aux femmes, il s'était rendu par étude très abstinent de l'un et de l'autre. Ce que j'ai de bien, je l'ai au rebours, par le sort de ma naissance. Je ne le tiens ni de loi, ni de précepte ou autre apprentissage. L'innocence qui est en moi est une innocence niaise, peu de vigueur et point d'art. Je hais, entre autres vices, cruellement la cruauté, et par nature et par jugement, comme l'extrême de tous les vices. Mais c'est jusqu'à telle mollesse que je ne vois pas égorger un poulet sans déplaisir, et entends impatiemment gémir un lièvre sous les dents de mes chiens, quoique ce soit un plaisir violent que la chasse. Ceux qui ont à combattre la volupté usent volontiers de cet argument pour montrer qu'elle est toute vicieuse et déraisonnable, que, lorsqu'elle est en son plus grand effort, elle nous maîtrise de façon que la raison n'y peut avoir accès, et allègue l'expérience que nous en sentons en l'accointance des femmes. Quand déjà le corps pressent la jouissance et que Vénus est sur le point d'ensemencer le champ féminin, où il leur semble que le plaisir nous transporte si fort hors de nous que notre discours ne saurait alors faire son office, tout perclus et ravi en la volupté. Je sais qu'il en peut aller autrement, et qu'on arrivera parfois, si on veut, à rejeter l'âme sur ce même instant à autre pansement. Mais il la faut tendre et raidir d'aguets. Je sais qu'on peut gourmander l'effort de ce plaisir, et m'y connais bien, et n'ai point trouvé Vénus si impérieuse déesse que plusieurs et plus réformés que moi la témoignent. Je ne prends pour miracle, comme fait la reine de Navarre, en l'un des contes de son Heptaméron, qui est un gentil livre pour son étoffe, ni pour chose d'extrême difficulté, de passer des nuits entières, en toute commodité et liberté, avec une maîtresse de longtemps désirée, maintenant la foi qu'on lui aura engagée de se contenter des baisers et simples attouchements. Je crois que l'exemple du plaisir de la chasse y serait plus propre. Comme il y a moins de plaisir, il y a plus de ravissement et de surprise. Par où notre raison étonnée perd ce loisir de se préparer à l'encontre lorsqu'après une longue quête, la bête vient en sursaut à se présenter en lieu où à l'aventure nous l'espérions le moins. Cette secousse et l'ardeur de ces huées nous frappent, si bien qu'il serait malaisé à ceux qui aiment cette sorte de petite chasse de retirer sur ce point la pensée ailleurs. Et les poètes font Diane victorieuse du Brandon et des flèches de Cupidon. Qui n'oublie parmi ses plaisirs les cruels tourments de l'amour ? Pour revenir à mon propos, je me compassionne fort tendrement des afflictions d'autrui et pleurerai aisément par compagnie si, pour occasion que ce soit, je savais pleurer. Il n'est rien qui tente mes larmes que les larmes. Non vrai seulement, mais comment que ce soit, ou feinte, ou peinte. Les morts, je ne les plains guère, et les envierai plutôt. Mais je plains bien fort les mourants. Les sauvages ne m'offensent pas tant de rôtir et manger les corps des trépassés que ceux qui les tourmentent et persécutent vivants. Les exécutions même de la justice, pour raisonnable qu'elles soient, je ne les puis voir d'une vue ferme. Quelqu'un ayant à témoigner la clémence de Jules César, il était, dit-il, doux en ses vengeances. Ayant forcé les pirates de se rendre à lui, qu'il avait auparavant pris prisonnier et mis à rançon, d'autant qu'il les avait menacés de les faire mettre en croix, il les y condamna, mais ce fut après les avoir fait étrangler. Philomon, son secrétaire, qui l'avait voulu empoisonner, il ne le punit pas plus aigrement que d'une mort simple. Sans dire qui est cet auteur latin, qui ose alléguer pour témoignage de clémence de seulement tuer ceux desquels on a été offensé, il est aisé à deviner qu'il est frappé des vilains et horribles exemples de cruauté que les tyrans romains mirent en usage. Quant à moi, en la justice même, tout ce qui est au-delà de la mort simple me semble pure cruauté, et notamment à nous, qui devrions avoir respect d'en envoyer les âmes en bon état, ce qui ne se peut, les ayant agités et désespérés par tourments insupportables. Ces jours passés, un soldat prisonnier ayant aperçu d'une tour où il était que le peuple s'assemblait en la place et que des charpentiers y dressaient leurs ouvrages, crut que c'était pour lui, et, entré en la résolution de se tuer, ne trouva qu'il n'y put secourir qu'un vieux clou de charrette rouillé que la fortune lui offrit. De quoi il se donna premièrement deux grands coups autour de la gorge, mais voyant que ça avait été sans effet, bientôt après il s'en donna un tiers dans le ventre où il laissa le clou fiché. Le premier de ses gardes qui entra où il était le trouva en cet état, vivant encore, mais couché et tout affaibli de ses coups. Pour employer le temps avant qu'il défaillît, on se hâta de lui prononcer sa sentence, laquelle oui, et qu'il n'était condamné qu'à avoir la tête tranchée, il sembla reprendre un nouveau courage, accepta du vin qu'il avait refusé, remercia ses juges de la douceur inespérée de leur condamnation, qu'il avait pris parti d'appeler la mort, pour la crainte d'une mort plus âpre et insupportable, ayant conçu opinion par les apprêts qu'il avait vu faire en la place qu'on le voulut tourmenter de quelque horrible supplice, et sembla être délivré de la mort pour l'avoir changé. Je conseillerais que ces exemples de rigueur, par le moyen desquels on veut tenir le peuple en office, s'exerçassent contre les corps des criminels. Car de les voir privés de sépulture, de les voir bouillir et mettre à quartier, cela toucherait quasi autant le vulgaire que les peines qu'on fait souffrir aux vivants, quoique par effet ce soit peu ou rien. Comme Dieu dit, « Ceux qui tuent le corps, ensuite ils ne savent que faire de plus ». Et les poètes font singulièrement valoir l'horreur de cette peinture et au-dessus de la mort. Hélas, je serai honteusement traîné sur le sol, reste sanguinolent d'un roi à demi brûlé dont les os ont été mis à nu. Je me rencontrai un jour à Rome sur le point qu'on défaisait Catena, un voleur insigne. On l'étrangla sans aucune émotion de l'assistance, mais quand on vint à le mettre à quartier, le bourreau ne donnait coup que le peuple ne suivit d'une voix plaintive et d'une exclamation, comme si chacun eût prêté son sentiment à cette charogne. Il faut exercer ces inhumains excès contre l'écorce, non contre le vif. Ainsi amollit, en cas quelque peu pareil, Artaxerxès, l'âpreté des lois anciennes de Perse, ordonnant que les seigneurs qui avaient failli en leur état, au lieu qu'on les fouettait habituellement, fussent dépouillés et leurs vêtements fouettés pour eux, et au lieu qu'on leur arrachait habituellement les cheveux, qu'on leur ôta leur haut chapeau seulement. Les Égyptiens, si dévotieux, estimaient bien satisfaire à la justice divine, lui sacrifiant des pourceaux en figure, et représentés, invention hardie de vouloir payer en peinture et en ombrage Dieu, substance si essentielle. Je vis en une saison en laquelle nous abondons en exemples incroyables de ce vice, par la licence de nos guerres civiles, et ne voit-on rien, aux histoires anciennes, de plus extrême que ce que nous en essayons tous les jours. Mais cela ne m'y a nullement apprivoisé. À peine me pouvais-je persuader, avant que je l'eusse vu, qu'il se fût trouvé des âmes si farouches qui, pour le seul plaisir du meurtre, le voulussent commettre, hacher et détrancher les membres d'autrui, aiguiser leur esprit à inventer des tourments inusités et des morts nouvelles, sans inimitié, sans profit, et pour cette seule fin de jouir du plaisant spectacle des gestes et mouvements pitoyables, des gémissements et voix lamentables d'un homme mourant en angoisse. Car voilà l'extrême point où la cruauté puisse atteindre. Qu'un homme tue un homme sans colère, sans crainte, simplement pour le spectacle. De moi, je n'ai pas su voir seulement sans déplaisir poursuivre et tuer une bête innocente qui est sans défense, et de qui nous ne recevons aucune offense. Et comme il advient communément que le cerf, se sentant hors d'haleine et de force, n'ayant plus autre remède, se rejette et rend à nous-mêmes qui le poursuivons, nous demandant merci par ses larmes, gémissant, couvert de sang et semblable à un suppliant, ce m'a toujours semblé un spectacle très déplaisant. Je ne prends guère bête en vie à qui je ne redonne les champs. Pythagore les achetait des pêcheurs et des oiseleurs pour en faire autant. Je pense que c'est par le massacre des bêtes que le fer, pour la première fois, s'est échauffé, taché de sang. Les naturels sanguinaires à l'endroit des bêtes témoignent une propension naturelle à la cruauté. Après qu'on se fût apprivoisé à Rome au spectacle des meurtres d'animaux, on vint aux hommes et aux gladiateurs. Nature a, se crains-je, elle-même attaché à l'homme quelque instinct à l'inhumanité. Nul ne prend son ébat à voir des bêtes s'entrejouer et caresser, et nul ne manque de le prendre à les voir s'entre-déchirer et démembrer. Et afin qu'on ne se moque de cette sympathie que j'ai avec elles, la théologie même nous ordonne quelques faveurs en leur endroit. Et considérant qu'un même maître nous a logés en ce palais pour son service, et qu'elles sont comme nous, de sa famille, elle a raison de nous enjoindre quelques respects et affections envers elles. Pythagore emprunta la métempsycose des Égyptiens, mais depuis elle a été reçue par plusieurs nations, et notamment par nos druides. Les âmes ne meurent pas, et toujours quand elles quittent leur ancien domicile, elles sont reçues dans de nouvelles demeures où elles habitent et vivent. La religion de nos anciens Gaulois portait que les âmes, étant éternelles, ne cessaient de se remuer et changer de place d'un corps à un autre, mêlant en outre à cette fantaisie quelques considérations de la justice divine. Car selon les déportements de l'âme, pendant qu'elle avait été chez Alexandre, il disait que Dieu lui ordonnait un autre corps à habiter, plus ou moins pénible, et rapportant à sa condition. Il les force à subir la muette prison du corps des bêtes, fait entrer les féroces dans des ours, les voleurs dans des loups, attribue les trompeurs aux renards, et quand il les a menés à travers nombre d'années à travers mille figures, enfin, les ayant purgés dans le fleuve du Léthé, il les rappelle à leur forme humaine originelle. S'il avait été vaillante, la logeait au corps d'un lion, si voluptueuse, en celui d'un pourceau, si lâche, en celui d'un cerf ou d'un lièvre, si malicieuse, en celui d'un renard, ainsi du reste, jusqu'à ce que, purifiée par ce châtiment, elle reprenait le corps de quelque autre homme. Moi-même, car je m'en souviens, au temps de la guerre de Troie, j'étais Euphorbe, fils de Panthée. Quant à ce cousinage-là d'entre nous et les bêtes, je n'en fais pas grand recette, ni de ceux aussi que plusieurs nations, et notamment des plus anciennes et plus nobles, ont non seulement reçu des bêtes à leur société et compagnie, mais leur ont donné un rang bien loin au-dessus d'eux, les estimant tantôt familières et favorites de leurs dieux, et les ayant en respect et révérence plus qu'humaines, et d'autres ne reconnaissant autre dieu ni autre divinité qu'elles. Bêtes rendues sacrées par les barbares, en vue d'un bienfait. Ceux-ci adorent le crocodile, ceux-là révèrent avec crainte l'ibis repu de serpent. Ici brille la statue d'or d'un singe sacré, des villes entières adorent ici un poisson du fleuve, là-bas un chien. Et l'interprétation même que Plutarque donne à cette erreur, qui est très bien prise, leur est encore honorable. Car il dit que ce n'était le chat ou le bœuf, pour exemple, que les Égyptiens adoraient, mais qu'ils adoraient en ces bêtes-là quelque image des facultés divines. En cette-ci la patience et l'utilité, en cette-là la vivacité, ou comme nos voisins les Bourguignons avec toute l'Allemagne, l'impatience de se voir enfermés, par où ils représentaient la liberté qu'ils aimaient et adoraient au-delà de toute autre faculté divine, et ainsi des autres. Mais quand je rencontre, parmi les opinions plus modérées, les discours qui essaient à montrer la prochaine ressemblance de nous aux animaux, et combien ils ont de part à nos plus grands privilèges, et avec combien de vraisemblance on nous les apparie, certes j'en rabats beaucoup de notre présomption et me démets volontiers de cette royauté imaginaire qu'on nous donne sur les autres créatures. Quand tout cela en serait absent, pourtant y a-t-il un certain respect qui nous attache, et un général devoir d'humanité, non aux bêtes seulement, qui ont vie et sentiment, mais aux arbres mêmes et aux plantes. Nous devons la justice aux hommes, et la grâce et la bénignité aux autres créatures qui en peuvent être capables. Il y a quelque commerce entre elles et nous, et quelque obligation mutuelle. Je ne crains point à dire la tendresse de ma nature si puérile que je ne puis pas bien refuser à mon chien la fête qu'il m'offre hors de saison ou qu'il me demande. Les Turcs ont des aumônes et des hôpitaux pour les bêtes. Les Romains avaient un soin public de la nourriture des oies, par la vigilance desquelles leur capitale avait été sauvée. Les Athéniens ordonnèrent que les mules et mulets qui avaient servi au bâtiment du temple, appelés hécatompédons, fussent libres et qu'on les laissât paître partout sans empêchement. Les Agrigentins avaient en usage commun d'enterrer sérieusement les bêtes qu'ils avaient eues chères, comme les chevaux de quelques rares mérites, les chiens et les oiseaux utiles, ou même qui avaient servi de passe-temps à leurs enfants. Et la magnificence, qui leur était ordinaire en toute autre chose, paraissait aussi singulièrement à la somptuosité et nombre des monuments élevés à cette fin, qui ont duré en parade plusieurs siècles depuis. Les Égyptiens enterraient les loups, les ours, les crocodiles, les chiens et les chats, en lieux sacrés, embaumaient leurs corps et portaient le deuil à leur trépas. Simon fit une sépulture honorable aux juments avec lesquels il avait gagné par 3 fois le prix de la course aux Jeux Olympiques. L'ancien Xantippus fit enterrer son chien sur un cap, en la côte de la mer qui en a depuis retenu le nom. Et Plutarque faisait, dit-il, conscience de vendre et envoyer à la boucherie, pour un léger profit, un bœuf qu'il avait longtemps servi.